19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble. Ensemble, pour commenter l'actualité, vous le savez, la mécanique est la suivante, elle ne changera jamais dans les informés sur Beurre FM. Tout d'abord, nous recevrons donc un invité, une invitée plus précisément. Elle s'appelle Stéphanie Rivoal, elle est diplomate, elle est aussi financière. Elle viendra nous apporter son regard concernant l'actualité du moment, la France-Afrique, mais également, vous savez, aussi la ville, les villes durables. Et on reviendra aussi sur son sommet prochain. Et puis, vous aussi, au 01 53 48 3000, je reviendrai sur cette déclaration d'Emmanuel Macron qui demande pardon aux harkis. Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, vous vous rendez compte? J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux déjà des commentaires qui fusent. Mais s'il le fait pour les harkis, pourquoi il ne le fait pas pour l'Algérie? Maintenant, il est temps. Et bien, on va en parler justement tout à l'heure. Au 01 53 48 3000, et puis tout le face-à-face tout à l'heure, eh bien, ce sera deux débatteurs, deux influenceurs qui viendront confronter leur point de vue sur ces trois sujets d'actualité, justement. Emmanuel Macron et les harkis. Nous reviendrons sur le décès de Bouteflika, d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien. Et puis enfin, ce fait divers terrible, un adolescent tué d'un coup de couteau au Lila en Seine-Saint-Denis. On reviendra sur la question comment endiguer cette violence des adolescents et les rixes. Bref, je voudrais qu'on en parle tout à l'heure. Voilà, le programme qui vous attend, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. C'est parti, vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est tout de suite l'interview.
Les informés, l'interview.
Et l'interview du jour, vous savez, c'est une personnalité. Elle est diplomate, elle est financière, mais également aussi, vous savez, fin connaisseuse du monde, du continent africain. Elle s'appelle Stéphanie Rivoal. Bonjour, ma chère Stéphanie Rivoal.
Bonjour Adil.
Merci.
Cette présentation, je suis ravie. Merci.
Mais écoutez, en même temps, c'est ce que vous êtes. Dites-moi, aujourd'hui, Stéphanie Rivoal, après avoir été ambassadeur en Afrique, en Ouganda précisément, d'abord, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, hein, parce que vous connaissez, vous, l'Afrique. Vous connaissez également les relations France-Afrique qui, parfois, peuvent être, exécrables, compliquées, effectivement, et puis parfois aussi...
pour dire ce qu'elles sont. Mais c'était une aventure extraordinaire pour moi, puisque j'étais pas diplomate de carrière et je suis arrivée dans la diplomatie un peu par effraction. Hein. Moi, j'ai fait plutôt de la bande d'affaires et de l'humanitaire et j'ai appris à devenir diplomate en l'espace de quelques mois et ensuite j'y suis restée plusieurs années. Alors, j'adore le continent africain, j'y suis très attachée, j'ai vécu au Soudan, en Ouganda, j'ai visité au moins 20 pays africains et du coup, j'ai développé une véritable affection, mais mes frères et sœurs africains, africaines disent que je suis une africaine blanche, donc c'est un grand compliment qu'on me fait. Et j'y ai vécu et je suis allée vraiment dans les coins des pays où personne ne va quand j'étais humanitaire notamment. Alors il y a aussi entre la France et l'Afrique, quelle histoire, hein, ça revient de très loin. Alors mon parti pris à moi, c'est de dire que les liens qui unissent la France et certains pays africains en particulier, hein, bien sûr, tous les pays du bassin méditerranéen et de l'Afrique francophone viennent d'une histoire qui est comme elle est, une histoire difficile, une histoire douloureuse, mais qui ont aussi une part positive, si on a envie d'en parler aussi un peu comme ça, des liens humains, de sang, hein, des mariages, bien sûr, entre des personnes, des installations de diaspora française en Afrique et africaine en France, installées depuis très longtemps et qui font partie des pays. Qui font leur diversité et leur richesse. Moi, j'avais envie, quand j'étais même secrétaire générale du Sommet Afrique-France, après avoir été ambassadrice, de retisser des liens en regardant vers le futur. Et en se demandant, et moins vers le passé, ça a toujours été un peu ma posture, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à partir de maintenant? Les pays africains sont ouverts à d'autres alliés, bien sûr, ou d'autres partenaires, les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Allemands, en plus des Américains et des Anglais. Et comment la France France peut rester un partenaire de premier plan. Et ça a toujours été mon obsession, c'est comment continuer à tisser des liens. Et mon point de vue, c'était que ça passait par l'économique, que créer des emplois dans les pays africains où il y avait beaucoup de jeunesse sans nécessairement d'emploi, organiser des formations professionnalisantes avec des débouchés immédiats, des partenariats franco-africains réels, oui, équilibrés, des poids lourds industriels pour que la valeur ajoutée reste plus sur le continent. Je m'étais dit que c'était peut-être ça qui pouvait être notre avenir.
Alors l'avenir, en même temps, il y a une réalité, ma chère Stéphanie Rivoal. Vous savez, un peu partout en Afrique, notamment l'Afrique francophone plus précisément, vous savez, une actualité toute récente, il y a quelques mois encore, des mouvements de protestation, des jeunes qui s'en prennent au symbole, par exemple, de la présence française en Afrique. Pourquoi il y a une telle hostilité 60 ans après, quand même, on peut le dire, certaines indépendances? Est-ce qu'on a une explication de cela? Alors que c'est une génération, d'ailleurs, madame l'ambassadrice, madame la diplomate, une génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale. C'est ça qui est assez paradoxal.
Tout à fait, et c'est une sorte d'appropriation par les jeunesses africaines de cette histoire, qui la revisitent, et ils ont tout à fait le droit de le faire, avec leur lunette à eux, et qui reviennent sur des injustices qui sont réelles, qui se sont passées, hein, et qui critiquent la mainmise parfois réelle, et parfois fantasmée, de groupes industriels français du secteur privé, et qui bien sûr, le franc CFA, avec l'idée que c'est une mainmise sur la monnaie. Il y a donc tous ces sujets qui doivent être purgés, qui sont pour partie totalement vrais, hein, ancrés dans des réalités économiques et monétaires, et pour d'autres largement inflatés par des réseaux sociaux qui s'enflamment, qui ne sont pas toujours équilibrés et sans doute certainement pas bienveillants. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui est profond. Alors ça blesse beaucoup les Français comme moi, qui sont attachés au continent africain et qui veulent tisser des liens. Mais ce sentiment qui français, sans se rouler dedans non plus, parce qu'il faut essayer d'en sortir. Mais pour ça, il faudrait avoir un langage d'authenticité, de dire voilà, oui, nous sommes là pour défendre nos intérêts nationaux avec vous. On est d'accord
avec l'authenticité, on est d'accord aussi avec ce dialogue inclusif parfois. Mais quand Emmanuel Macron, le président français, se rend en Afrique, on le taxe de non au néocolonialisme, Macron missionnaire de la France-Afrique. Vous avez l'expérience aussi de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment il faudrait effectivement retisser ces liens entre le continent, l'Afrique et la France?
Alors déjà, il y a effectivement certains gestes qui sont parfois totalement symboliques, mais que j'ai trouvé parfois maladroits dans les paroles qui peuvent être tenues par les autorités françaises. Le sommet de Pau a été largement critiqué, et on pouvait sinon se poser la question de la méthode. Les choses qui peuvent être dites sur la diplomatie, la démocratie, les droits de l'homme et tout, il faut faire attention, il faut avoir beaucoup de respect, et puis ne pas forcément attendre de tous les pays du monde, dont les Africains, à appliquer des modèles de démocratie à l'occidental. Ça n'a pas grand sens. Chaque pays va faire son chemin vers plus de liberté, vers plus de place du peuple dans les gouvernances, bien sûr, mais peut-être dans des chemins ou des méthodes différentes. Alors, comment faire? Être des alliés avec une parole de vérité, mais sans, en se débarrassant un peu des oripeaux de l'arrogance qui parfois nous caractérise, il faut bien le dire.
Autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, puisque vous l'avez pratiqué, c'est les villes durables, la ville durable. On est d'accord, oui, Stéphanie Réau?
Dites-moi. Alors,
absolument, du sommet, de ce sommet. Alors, la ville durable en action, est-ce que c'est habiter cette France de demain? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas tout simplement extrêmement cher? Est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui pour mettre en œuvre justement cette réflexion en action?
Ah, c'est une excellente question. Alors moi, j'ai regardé des deux côtés de comment une ville se construit de manière durable, parce qu'il y a des villes nouvelles, notamment en Afrique, bien sûr, comment on la construit dès le départ et qu'on la pense durable, et comment on la rénove. En fait, je fais la comparaison.
Il faut dire à nos auditeurs que, comme vous l'avez souligné, c'est à l'issue de cette annulation du sommet Afrique-France, notamment, due à l'épidémie du Covid, hein, on est d'accord aussi.
Malheureusement, tout à fait. Ça devait se tenir à Bordeaux. On devait avoir 15 000 personnes présentes, dont des milliers et des milliers d'Africains, dont des entrepreneurs. Donc, je suis très 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 déçue parce qu'on aurait pu enclencher beaucoup de choses. Mais bon, le Covid-19 aura eu raison de cette initiative et ils sont maintenant, il y a un nouveau sommet, hein, Afrique France, qui va se tenir à Montpellier, mais qui a un autre format, plus orienté sur des conférences. Et pour revenir au sujet de la ville, imaginez demain que vous voulez construire une maison. Oui. Une maison neuve, bah, vous allez la construire directement dans des matériaux où là, oui, vous allez payer moins de chauffage, vous allez faire de la récupération d'eau, vous allez faire attention à l'électricité, à l'énergie, et vous allez la construire intelligemment. Donc ça, c'est la version 1 de comment on fait une ville durable à partir de rien. On peut la faire directement durable et directement intelligente. Et puis vous avez la vieille France, 17 siècles de construction. Comment on fait quand on rénove une maison ancienne? Est-ce qu'on abandonne et on laisse une passoire thermique et on laisse monter la facture énergétique, ou est-ce qu'on cherche d'autres moyens? Ils sont différents du premier cas où on commence de zéro, mais il y a des moyens aujourd'hui pour rénover. Parfois de l'intérieur, ça coûte cher, mais peut-être qu'à la fin du chemin, ça se rembourse. Une manière intelligente, ce serait de donner des crédits à zéro taux d'intérêt pour les gens qui font des rénovations, parce qu'ils vont gagner en économie d'énergie et rembourser
c'est ça,
au fur et à mesure. Oui. Il faut voir le long terme. Vous avez un problème de fuite d'eau, vous dites, je peux
on n'est pas un peu en retard, justement, sur cette transformation durable, Stéphanie Révoil?
Ah bah, je pense qu'en tout cas, on n'est pas en avance, et il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'impact que ça a. En fait, quand on ne fait pas ce genre de geste, on brûle de l'argent tous les jours avec de l'énergie dépensée. Et en plus, on a cet impact négatif sur l'environnement.
Ça passe par quoi, finalement, pour qu'on puisse accélérer ces villes, justement, durables?
Alors là, il y a quand même le maillon des maires. Nous, notre sommet, on avait invité énormément de maires. L'échelon territorial est primordial. L'échelon citoyen, bien sûr, on va chacun mener nos rénovations dans ce sens. C'est très important. Mais il faut des volontés locales pour le faire, de manière réaliste, pas dogmatique, mais de manière réaliste, proche des gens, avec à chaque fois des données, des enjeux différents. C'est pas la même chose sur à Nice qu'à Lille. Ils n'ont pas les mêmes enjeux énergétiques, d'exposition aux intempéries quand on est sur une côte, ou quand on est dans une zone rurale. Donc ça doit être adapté au territoire. Et la prise de conscience, c'est numéro un. Les dispositifs adaptés en deux. Et puis ensuite, l'action, elle est au niveau des territoires.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Stéphanie Révoil. Vous savez, vous êtes financière, je le rappelle, diplomate française. Merci et au plaisir de vous retrouver effectivement sur l'antenne de Beurre FM dans Les Informés. Merci à vous.
Avec grand plaisir.
Quelle est la prochaine actualité qui vous attend?
Pour moi, là, tout de suite, dans 5 minutes ou dans les 10 prochaines
années? Dans les prochains mois, on va dire.
Ah bah écoutez, je vais tourner une nouvelle page. Allez, c'est un scoop. Je lance un mouvement politique pour justement ramener les gens vers la politique et trouver des solutions.
On va vous recevoir pour parler politique, dis donc.
Bah, mais vraiment,
dans le cadre des élections présidentielles.
Bah c'est ça, il faut quand même qu'on fasse des propositions.
Écoutez... Dès que vous lancez votre mouvement, je compte sur vous pour venir l'annoncer ici en direct sur l'antenne.
Eh bien, alors je promets d'être là.
Merci Stéphanie Révoil.
À bientôt.
À bientôt, 19h13. On va marquer la première page pub et on se retrouve tout de suite après. Je voudrais lancer ce premier sujet avec vous. Je vous attends partout en France au 01 53 48 3000. Emmanuel Macron qui demande pardon aux Harkis. Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la France se rapproche encore un peu. Alors, est-ce que c'est un plan de communication électoraliste? Certains se posent la question. D'autres, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui se sont déchaînés, qui ont carrément reproché à Emmanuel Macron. Si vous avez fait cela, eh bien, il faut le faire aussi pour l'Algérie, évidemment, en faisant référence à l'indépendance et puis surtout à la guerre d'Algérie. Aller plus loin, est-ce qu'il est allé encore plus loin que François Hollande? Des associations demandent aussi une revalorisation. Bref, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous rejoindre à 19h19 dans Les Informés sur Beurre FM, 01 53 48 3000, on voudrait évidemment je voudrais vous entendre échanger avec vous sur Emmanuel Macron qui demande pardon aux Harkis en reconnaissant leur singularité dans l'histoire de France. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Reconnaissant quoi d'abord? Un abandon de la République française. Le chef de l'État, il a présenté donc hier ses excuses, engagé aux côtés de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Il a annoncé un projet de loi même, de reconnaissance et de réparation. Qu'en pensez-vous? Je voudrais vous entendre. Qu'en pensez-vous? Et puis surtout, évidemment, quand vous avez vu ça, vous pensez forcément à l'Algérie. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Eh bien, on vous donne la parole, on vous attend tout de suite au standard. Et en attendant, je vais présenter, vous savez quoi, le face-à-face tout de suite avec nos amis influenceurs.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Je commence par les dames, sinon on va me mettre une patate.
Je suis pas agressive.
Maître Lina, en plus elle est avocate, alors vous imaginez les amis.
Ça frappe encore plus fort.
Ça frappe encore plus fort. Maître Linda, ça y est, bonjour.
Bonsoir Adil.
Comment ça va ma chère avocate?
Je vais très bien et toi? Bah, écoute, oui. Je suis très, très heureuse de vous retrouver ce soir ainsi que les auditeurs.
Bah, écoutez, c'est partagé face à vous justement. Pierre-Henri, que je ne présente même plus, le président de France Fraternité. Bonjour mon cher Pierre.
Bonsoir, Adil, bonsoir Linda, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs et ravi d'être sur Beurre FM.
Bah écoutez, ravi aussi également. Vous voulez dire un petit mot sur Emmanuel Macron qui demande pardon aux archis, justement en reconnaissant que la France a fait ses excuses, a engagé aux côtés de l'armée. Comment vous avez réagi justement et est-ce qu'il a eu raison de le faire et est-ce que c'est pas un plan électoraliste qu'il prépare justement, comme disent certains? Ça vous fait sourire?
Ben oui, parce que alors ce qui me fait sourire, c'est cette accusation d'électoralisme. Nous sommes à 7 mois des élections présidentielles et évidemment toute mesure prise par le président de la République, tout propos, tout discours va être ramené par ses opposants à un discours électoraliste.
Ils ont commencé à le faire. Hein.
L'histoire.
Jamais. Certains ne se sont pas gênés là en disant que c'était totalement électoraliste.
Oui. Voilà. Mais ça, c'est tellement convenu que c'est très peu intéressant en réalité. Moi, je rappelle les propos de Emmanuel Macron en 2017, où il disait la colonisation a été un crime contre l'humanité. Mmh. Et la part sombre, évidemment, l'histoire de notre pays et de la colonisation. Et il me semble que dans cette aventure, nous avons aussi embarqué une partie d'un peuple.
Oui.
Et que effectivement, nous avons...
Et ce peuple, c'est les harkis.
Et ce peuple, oui, enfin, c'est un certain nombre d'Algériens qui ont combattu aux côtés de la France, qu'on a appelé les harkis, et que à la fois on a laissé sur place, qui se sont fait massacrer, et puis dont certains sont revenus en France et qui ont été largement discriminés. Mmh. Et donc je pense que la décision d'Emmanuel Macron...
C'était une lettre à l'égard de la République ?
Ah ben oui, je pense, oui. Je pense qu'il est normal qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, veuille solder cette affaire et comprenne ce qui a été le drame des harkis. Voilà, mais ça va pour moi de pair avec les propos qu'il a tenus en 2017 et qui font partie d'une réconciliation. Il faut
L'histoire des harkis, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est douloureuse?
Ah ben, évidemment qu'elle est douloureuse.
Oui, je pose la question. Linda Saya.
La guerre d'Algérie, c'est quand même une page sombre de l'histoire. Donc il y a pas mal de points qui, à ce jour, sont restés obscurs. Mais je pense qu'il y a une volonté de la part d'Emmanuel et Macron de se poser en tant que président, de s'inscrire dans l'histoire. Parce que par rapport à
il a été plus lent que François Hollande.
Alors il a été plus
beaucoup plus loin,
mais il est dans une continuité d'une prise de position de tous les présidents.
Ça nous rappelle quand même Jacques Chirac.
Alors il est dans une continuité. Je pense que par rapport à d'autres candidats qui sont d'autres personnes qui arrivent et qui disent qu'ils veulent être candidats pour les prochaines élections présidentielles, lui il arrive de manière très solennelle. C'est le président de la République. Il est déjà dans l'histoire. Donc il a une volonté de s'inscrire dans la continuité de tous ces présidents qui ont pris position par rapport à cette question-là, notamment Valéry Giscard d'Estaing en 1974, puisqu'il reconnaissait le statut des anciens combattants. Il y a eu Jacques Chirac qui a instauré une journée du souvenir le 25 septembre. Nicolas Sarkozy a eu des mots forts, ça a été dit par Pierre-Henri en 2007, puis en 2012, il y a eu François Hollande aussi qui avait reconnu les responsabilités de...
Vous avez été fouillé, cherché...
Si ce n'était pas le sujet du jour,
je vois ça. Mais finalement, c'est quoi, la France, elle a manqué à ses devoirs, c'est ça?
Je pense qu'il y a une volonté... en tout cas, c'est ce que le président affiche. Après, je ne sais pas si c'est... honnête ou si c'est purement électoraliste. Enfin, il y a une volonté, en fait, de reconnaître et de réparer,
alors,
de réconcilier.
On n'abandonne pas les...
Pierre-Henri.
Mais on n'abandonne pas les personnes qui sont à vos côtés dans une guerre affreuse, mais on ne les abandonne pas sur place.
Ouais.
De manière très claire. Écoutez, vous avez vu, par exemple, je vais prendre un exemple très récent dans l'actualité, autour de l'Afghanistan. Vous avez vu l'unanimité de l'ensemble de la classe politique, des journalistes, des médias qui ont tous dit on ne peut pas abandonner les personnes qui ont travaillé avec nous en Afghanistan. Il faut absolument les sauver. Il faut faire un pont aérien. On ne peut pas répéter l'histoire des Harkis. Et les gens ont raison de dire cela. On ne peut pas répéter l'histoire des Harkis. Et donc, voilà, nous sommes comportés manière extrêmement lâche à l'égard des Harkis.
Oui.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron apaise les mémoires. Et je crois que c'est...
Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela, justement, Linda Saïa et Pierre-Henri? Je voudrais aussi vous entendre au 01-53-48-3000. Certains sur les réseaux sociaux, évidemment, beaucoup de messages. Hein. Algérie, Harkis, très bien, pas de problème, déclaration d'Emmanuel Macron. Et maintenant, on attend le pardon pour les Algériens et les Algériennes massacrés, torturés, déplacés, enfumés, emmurés, violés, décapités, guillotinés, nucléaires, etc., etc. Plein de messages comme ça, j'ai reçu. Mais il y en a... Enfin, écoutez, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Ça vous fait réagir?
Oui, évidemment, parce que finalement, c'est... Alors, c'est une question complexe, quand même, la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Et pour beaucoup, il y a une méconnaissance aussi de cette partie de l'histoire. Évidemment, si on donne des excuses à une catégorie de victimes, les autres victimes veulent aussi être... recevoir aussi le pardon.
Oui.
Tout le monde veut être reconnu et peut-être avoir une réparation.
Alors,
au moins symbolique.
Oui, mais, au moins symbolique, oui. Alors, voilà. Pierre-Henri, attendez.
Je pense qu'il faut aller sur la voie qui a été tracée en 2017, avant l'élection d'Emmanuel Macron, où il répétait que la colonisation avait été un crime...
On connaît la suite, quand même.
Contre l'humanité. Enfin, la suite, il ne l'a pas répétée de cette manière dans ses fonctions. Mais... voilà, je pense que personne n'a à gagner à agiter les mémoires troublées. Les 130 ans de colonisation, ont engendré un certain nombre de crimes de spoliation. Il faut le dire, le reconnaître. Pour autant, nous sommes dans une nouvelle page de l'histoire de chacun de nos pays. Et je pense qu'il est temps, tout en reconnaissant...
Donc, cette loi de réparation pour les Harkis...
Alors, si on donne...
Elle est aussi nécessaire. Elle ne s'oppose pas au fait que l'aventure coloniale a été un crime contre l'humanité. Le fait de dire à des gens qui ont combattu aux côtés de la France, qui se sont trouvés déchirés au sein même d'une nation, d'un territoire, leur dire vous avez servi aux côtés de la France, on vous a oublié, on vous a maltraité, aujourd'hui je fais une loi de réparation. Ben oui, on est, et puis n'oublions pas, on est 60 ans plus tard, ouais, quand même. Ouais. 60 ans plus tard, et donc pour les enfants, je trouve que, oui, il est temps de passer à l'apaisement.
L'apaisement, Linda Saïa, vous partagez ses propos, et notamment sur ce qui se raconte, ce qui se dit, ce qui est posé sur les réseaux sociaux.
La guerre d'Algérie, la colonisation ne se limite pas à la question des Harkis. Voilà ce que je vous dis, la question est beaucoup plus vaste. L'idée, c'est si on veut apaiser les tensions identitaires en France aujourd'hui et demain, je pense que ce n'est pas suffisant. Mmh. Après, il va y avoir une autre question qui va se poser. Il va y avoir une autre...
Regarde,
Il ne faut pas que les gens aient un sentiment d'injustice. Que les gens aient un sentiment d'injustice. C'est-à-dire, on va dire, pourquoi est-ce qu'on excuse certaines personnes et moi et pas moi?
Ah, alors Pierre-Henri, qu'est-ce qui se passe?
Non, je vous mets en garde. Les questions identitaires aujourd'hui, en France, elles ne se jouent pas autour la mémoire douloureuse entre Algériens et Français. Non, il y a évidemment des discussions à avoir et à continuer à ouvrir cette page, mais enfin, la question identitaire, aujourd'hui, elle ne se fabrique pas autour de ça. Elle se fabrique, hélas, autour des formations d'extrême droite qui sont à longueur de journée et depuis des mois en train de nous expliquer que nous sommes dans le grand remplacement. Regardez cette une de Causeur qui est un scandale absolu. Regardez les propos de Zemmour sur les noms, les patronymes. Enfin, c'est hallucinant. Et la question du identitaire, c'est autour de ça qu'elle est en train de se jouer dans un certain nombre de têtes et de formations d'extrême droite. Pas sur la question de l'Algérie. Et même si je sais où je suis, hein, je dis ça sur l'antenne de Beurre FM.
Vous voulez dire quoi, Linda Sayar,
que avant de derrière la question aussi du pardon, il va se poser la question de la réparation.
Oui, absolument.
Est-ce qu'il faut sortir un chèque? La question s'est posée en tout cas, puisqu'il était question aussi d'une revalorisation des allocations pour la première génération. Donc, vous voyez, donc, le pardon
pour
amène...
La première génération
pour,
de...
pour la première génération.
Oui, mais quelle première génération?
Bah, écoutez, il y a encore des gens qui ont été vivants du temps de la guerre d'Algérie, qui sont toujours vivants aujourd'hui.
Ben oui,
et ces personnes-là sont en train de vieillir. Vous dites que c'est plus d'actualité, mais ces gens sont toujours vivants.
80, 90.
Voilà, 50. Donc je pense qu'ils arrivent à un âge où ils ont peut-être besoin de sortir les fantômes du placard. Ils ont peut-être besoin d'entendre certaines choses. Ils ont besoin, vous voyez. Donc, pour moi, je pense que le livre de l'histoire n'est pas complètement refermé. On a un héritage historique, il faut l'assumer, mais de manière bienveillante.
Pierre-Henri, vous disiez tout à l'heure, vous faisiez référence à cette une du magazine Causeur. La une du magazine Causeur qui met en scène justement des bébés qui sont des bébés acteurs. Vous faisiez allusion au grand remplacement, c'est ça? Qui a fait scandale d'ailleurs.
Ah mais je fais allusion à cette une de Causeur.
Elle a fait, elle a fait beaucoup réagir.
Oui,
beaucoup
critique, hein. Et avec des bébés phénotypés, c'est-à-dire qui sont soit eurasiens,
bah, souriez,
soit noirs.
Souriez, vous êtes grand remplacé.
Voilà. Et voilà, souriez, vous êtes grand remplacé. Et donc cette référence à au grand remplacement, qui est une thèse de Renaud Camus. Un idéologue d'extrême droite. Je rappelle que cette thèse, qui dit en gros que la population extra-européenne fait beaucoup plus d'enfants que les caucasiens.
La nouvelle démographie française.
Que les caucasiens, et que donc, du coup, c'est sous l'effet d'un complot mondial qu'on cherche à fabriquer un homme nouveau qui répond aux besoins du capitalisme international. Et je rappelle que cette thèse du grand remplacement a amené à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande et qui a fait 49 morts. Le type qui a fait l'attentat terroriste s'est réclamé dans un manifeste de 73 pages de la théorie du grand remplacement.
Ouais. Et ça vise des enfants.
Et en faisant allusion, oui, et en faisant allusion à un voyage qu'il a fait en France où il dit, j'ai vu les envahisseurs. Alors comprenez par les envahisseurs tous ceux qui ont une peau un petit peu plus bronzé que la mienne.
Exactement.
Voilà. Racisme. Encore que je suis toujours bronzé puisque je reviens de vacances.
C'est vraiment plus. Ouais, vous l'êtes toujours, vous avez bonne mine. Racisme décomplexé, Linda Sayar, concernant la une de Causeur.
Je l'ai pas vu. J'ai honte de dire que je l'ai pas vu.
Non, mais elle fait polémique. Il dit souriez, vous êtes grand remplacé avec des bébés. Des bébés, effectivement, comme il vient de faire allusion Pierre-Henri, des bébés qui sont mat de peau, noirs ou asiatiques. Donc on les voit et effectivement, cette une qui a scandalisé, évidemment, tout le monde.
Et nous allons nous porter partie civile, France Fraternité, sur ce dossier. Ce n'est pas possible.
Il faut communiquer dessus. Il faut communiquer.
Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
Nous poursuivons et et nous nous portons partie civile.
Eh bien, écoutez, on continue d'en parler. 01 53 48 3000, c'est dit. Ça y est, France Fraternité se porte partie civile. 19h35, on marque la dernière pause donc de la soirée avant de se retrouver pour la dernière ligne droite. On va parler de la mort d'Abdelaziz Bouteflika, mais également aussi dans Seine-Saint-Denis. Comment endiguer ? Parce que, de nouveau encore, on a fait évidemment terrible, un jeune de 16 ans tué d'un coup de couteau à la poitrine. On en parle dans une poignée de minutes. À tout de suite, ne bougez pas, 01 53 48 3000, on vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite dans Les Informés sur Beurre FM en direct, en live, le face-à-face justement, et puis vous aussi au 01 53 48 3000. On continue de parler donc de la mort de Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, mais également aussi Seine-Saint-Denis avec ce fait divers. On reviendra sur cette actualité en Seine-Saint-Denis, vous savez, ce jeune de 16 ans tué d'un coup de couteau à la poitrine.
FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Alors, la mort de Bouteflika, vous savez, au début, je vais reprendre une déclaration d'une phrase qui m'a interpellé. Au début, je l'admirais, et puis il a merdé. Ça, c'est la diaspora algérienne de Marseille qui a réagi, et qui est à la fois entre rancœur, indifférence, respect. Vous, vous êtes comment, Linda Saya et Pierre-Henri?
Quand je vois la fin de son, enfin si on peut parler de Rennes, c'est quand je vois la
20
fin
ans de Rennes,
hein, 20 ans de Rennes, c'est pas rien. Pour moi, c'est un des hommes politiques les plus importants de l'histoire d'Algérie après la guerre. D'accord. Donc je pense qu'on puisse discuter aujourd'hui des conditions de ses funérailles, je trouve ça absolument scandaleux. Je pense qu'il a été quand même quelqu'un de très important. C'est oublier ce qu'il a été. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on garde l'image d'un homme qui est complètement affaibli avec des yeux de Merlin Free. C'est un petit peu l'image qu'on a aujourd'hui. Il a traversé plusieurs générations. Et vous savez, les fins de règne sont toujours difficiles, même pour les grands empereurs. Voilà, donc... Mais quand on pense à Bouteflika, moi je vois quelqu'un qui a eu une longue et intense vie politique.
Oui.
Bon, il y a eu une parenthèse avec la mort de Houari Boumediene. Mais il a quand même été un très grand diplomate. Il a été quelqu'un qui a été. Il a fait partie du premier gouvernement algérien après la colonisation. Il a été ministre d'abord des affaires
de la jeunesse, quelques mois.
Et puis la même année, il rejoint les affaires étrangères.
Très jeune, d'ailleurs.
À 25 ans. Oui. Il était ministre à 25 ans. Et jusqu'en 1979, il va être extrêmement actif dans les affaires internationales, si bien qu'il est surveillé par les services secrets français.
Donc une longévité, vous êtes en train de nous dire, exceptionnelle.
Exceptionnelle pour moi aujourd'hui.
Oui, Pierre-Henri.
Oui, c'est un homme politique d'une grande envergure.
Dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, c'est un homme politique d'une grande envergure. dès 1963, le Quai d'Orsay disait de lui, c'est un personnage dénué de scrupules, doté d'une intelligence aiguë et d'une très grande ambition. Et rester aussi longtemps à la tête de son pays, c'est la marque des grands. Il faut quand même se rappeler que Bouteflika a fréquenté tous les présidents français depuis Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, etc. Alors, évidemment, moi, je comprends aussi ceux qui disent, à un moment donné, je l'admirais, et puis, le problème, c'est que quand on dure aussi longtemps, et que, y compris, on est rattrapé par la maladie, évidemment, il y a des questions qui se posent sur l'effectivité de son pouvoir, et notamment dans la dernière période, sur les 10 dernières années, où en fait, il ne gouvernait absolument pas, où il avait passé la main, et il n'était qu'un homme de paille. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va retenir ? La dernière période actuelle...
Chassé en 2019 par le mouvement de l'Irak,
évidemment... Qu'est-ce qu'on retient ? On retient cette dernière séquence où le peuple algérien a dit « ça suffit, pas de cinquième mandat », où on retient l'homme roué, qui disait, qui d'ailleurs...
L'homme qui aimait trop le pouvoir, peut-être ?
Mais qui aimait beaucoup le pouvoir et qui en jouait. Qui en jouait et qui aimait la France.
Qui a su se rendre indispensable.
Et qui aimait la France.
C'est vrai, certains auditeurs disaient que c'était un fin diplomate, un fin politicien.
Mais bien sûr. Mmh. Et qui aimait la France. C'est assez drôle parce que il y a cette anecdote où il recevait ses interlocuteurs dans son, à la présidence sur les hauteurs d'Alger, qui domine toute la baie, là, où il disait comment. Je suis français, voilà. Évidemment, ça choquait, à la fois ça interpellait tous ces visiteurs. Il en jouait, mais il a eu un rapport très ambigu avec la France, mais de grande proximité. Faut pas oublier que pendant son exil, par exemple, de 1981 à 87, il habitait en France, hein, il habitait dans dans le 16e. Alors après, il a mis en scène les oppositions, des oppositions jouant justement sur les mémoires, parce qu'au moment où il a été élu en 99, dans les conditions dans lesquelles il a été élu, le Quai d'Orsay avait sorti un communiqué pour expliquer que quand même il était préoccupé par les conditions de son élection, et ça ne lui avait pas plu, et à partir de là il y a eu un certain nombre de déchirures, comme il y a eu un certain nombre de déchirures dans la dernière partie du mandat de Jacques Chirac, voilà, où les choses se sont un petit peu tendues.
Linda Sayah, que retenir de sa période, de ce règne ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dont on devrait peut-être souligner par rapport à ce personnage politique. En fait, il y a la période avant la prise de pouvoir. Il est, en fait, avant d'être politique, il est résistant. Donc il a une période avant ses 25 ans, il rentre déjà dans la politique en étant quasiment adolescent. Et il va se battre pour que son pays devienne indépendant. Donc c'est quelqu'un de base qui a quand même un ADN de liberté et qui est très attaché à on le verra, parce qu'après quand il fera une carrière internationale et diplomatique, on verra qu'il aura des positions tiers-mondistes et pas seulement à l'égard de l'Algérie. Il va porter quand même des idées de liberté. Et ça, je trouve que c'est pas rien en tant qu'homme politique. Et pas simplement algérien, c'est aussi un homme politique qui a su faire de l'Algérie, donner une image de l'Algérie qui a pu rayonner en Afrique, en France et aussi au Moyen-Orient. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais il va développer, il y a l'homme résistant, donc il va rejoindre quand même l'armée de libération nationale en 1956. Donc il va avoir quand même un rôle très important. Il va être affecté dans le sud du pays où il va participer à l'acheminement d'armes. Donc il va réapprovisionner les maquis dans le sud de l'Algérie au niveau du front du Mali.
Oui. Il a été aussi l'artisan de la réconciliation aussi.
Il a été l'artisan de la réconciliation.
De rétablir la paix en Algérie, mais surtout aussi quand l'Algérie était plongée en pleine guerre civile des années noires.
Il est arrivé comme un sauveur. Il a succédé en 1999 à Ali Amin Zeroual. Il a été réélu trois fois jusqu'à ce qu'il ait cet AVC. Donc il y a vraiment eu un avant et un après cet AVC qui a eu lieu en 2014 et qui finalement l'a affaibli très physiquement. Donc il y a eu vraiment l'avant et l'après.
Ça, c'est l'instrumentalisation du pouvoir par les différents clans. Il y a une bataille de clans à Alger,
Donc c'est quelqu'un qu'on n'a pas su remplacer. Ouais. Jusqu'à la fin, la preuve, c'est qu'il était complètement diminué, mais on n'a pas su le remplacer. Donc ça prouve bien qu'il a été le bouclier de toute une nomenclature algérienne post-guerre.
N'oubliez pas non plus qu'en 2011, il y a eu des émeutes pour le coût de la vie dans toute l'Algérie, qui ont fait 5 morts, plus de 800 blessés. Il a réprimé assez durement toutes les manifestations pour la liberté. Donc, voilà, c'est un personnage très...
Contradictoire,
très très contradictoire. Voilà, mais encore une fois, je reviens au jugement de départ. C'est un homme d'une intelligence aiguë et un homme sans scrupules.
On passe au second sujet.
Il y a aussi un geste vis-à-vis des Kabyles, de la population kabyle. Quand même, il y a eu quelque chose d'assez important, c'est qu'il a fait un geste envers la communauté kabyle en 2017, puisqu'il a consacré le nouvel an berbère, et ça, c'est pas rien pour la communauté kabyle.
Oui.
En 2018,
elle dit ça parce qu'elle est originaire de.
Oui, mais bah, lesquels
non, les. C'est très important oui, parce qu'il y a eu.
Mes amis kabyles ne disent pas ça. Hein. Ils sont vraiment très, 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 très réservés à l'égard du personnage.
Il y a deux gestes
symboliques. Il est sans pitié à l'égard de.
Deux gestes symboliques à l'égard de la communauté kabyle. Il y a eu le nouvel an berbère qui est devenu un jour férié et chômé. Et la langue amazigh qui a été reconnue comme langue nationale officiellement. Oui. Et ça,
c'est pas rien. Effectivement, il a la raison de le souligner. Dernier sujet, évidemment, qui a retenu notre attention pour aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. L'adolescent a été agressé au Lilas. Ça se passait donc hier soir. Le suspect, âgé de 17 ans, a été interpellé par les autorités, placées en garde à vue. Oui, évidemment, nouveau drame mortel hein, dans le 93. Moi, ce que je voudrais soulever, évidemment, que de nouveaux drames. On en a parlé, souvenez-vous, ici même, les RICS. Souvenez-vous aussi toutes ces violences entre adolescents. On reparle encore de ces violences, vous savez où maintenant ? Ceux qui sont nés en 2010, ceux qui sont entrés dans la classe de 6e. Des nouvelles violences de nouveau. Alors moi j'ai une question à vous poser les amis, hein, Linda Saïa et Pierre-Henri. Comment en finir avec cette violence ? Comment prévenir ? Comment comprendre les différentes formes de violence ? Comment identifier et prévenir ces problématiques de la violence chez les adolescents ? Il faut qu'on en parle. Et comment les parents aussi qui sont dépassés, chers amis ?
Bien sûr.
Pierre-Henri.
D'abord, un mot. La Seine-Saint-Denis, ce n'est pas simplement ces RICS qui donnent des morts. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un territoire extraordinairement
vivant.
J'ai
raison de le rappeler.
D'entrepreneurs, de jeunes gens qui s'inventent un avenir. C'est un territoire aussi avec un dynamisme extraordinaire. Alors, évidemment, il y a la part sombre. Et la part sombre, c'est notamment ces morts à répétition de jeunes gens dans des RICS. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la surveillance des réseaux sociaux et la médiation. C'est absolument indispensable. Il y a un plan qui a été mis en place par le gouvernement avec 11 ministères sous l'autorité du Premier ministre, mais ça reste encore flou. Oui. Je pense que, évidemment, il faut renforcer les moyens en matière d'éducation, et y compris pour toute la population déscolarisée. C'est absolument indispensable parce que il y a ceux qui sont à l'école républicaine, puis il y a ceux qui en sont sortis. Et c'est ceux-là qui doivent faire l'objet aussi de toutes
Linda
les attentions.
Linda Saïa, vous dites quoi en quelques secondes ? Parce qu'on arrive au terme de cette émission.
C'est un problème qui est très difficile à enrayer. Hein. Donc effectivement, on a peut-être un effet loup par rapport à la Seine-Saint-Denis. Hein. On a peut-être un effet loup parce que la Seine-Saint-Denis, je rappelle, c'est un des départements les plus jeunes de France. Donc on a effectivement ce problème de violence qui concerne les jeunes. Donc il y a peut-être une surreprésentation par rapport à une catégorie de personnes. Mais les faits de violence ne sont pas nouveaux. Hein. Je regardais, on avait déjà un rapport en 1977 d'un ministre de la Justice.
Elle a été cherchée pour 1977.
Vous dire que c'est très très loin. Donc ça montre bien qu'en dépit des alternances politiques, les politiques publiques en matière de sécurité, voire même d'éducation, parce que derrière la sécurité, il y a l'éducation. Comme bien dit sûr. Victor Hugo, on ouvre des écoles, on ferme des prisons. Donc je pense que l'origine du problème, il est surtout au niveau de l'éducation, au niveau de la culture. Donc c'est important en fait qu'on revoie peut-être nos politiques pour éviter justement une
multiplication. Mais vous dites ça, Linda Saïa, on a les politiques ils n'ont fait que ça, de fauter des lois, de mettre en place des dispositifs, d'apporter des sensibilisations.
Mais ce qui est encore plus grave aujourd'hui, c'est qu'on a une forte implication des mineurs et c'est ça qui devient plus inquiétant. On a une multiplication.
Oui, mais la dernière génération,
c'est criminel les deux, trois dernières
années. C'est les réseaux sociaux. C'est l'effet des réseaux.
Mais c'est pas simplement ça.
C'est une absence aussi de mixité, hein, soyons clairs, dans un certain nombre de quartiers.
Oui, parce qu'on a aussi une ghettoisation.
C'est exact.
On a aussi une ghettoisation des quartiers.
Vous avez une ghettoisation des quartiers, vous avez une absence de mixité, vous avez des jeunes gens qui grandissent dans la précarité, sans père, sans cadre déterminé, et évidemment que c'est explosif. Voilà, et il faut continuer continuer à mettre des moyens sur la prévention, sur l'éducation et sur la responsabilité des familles.
Mais surtout de manière être sincère. Une personne qui est violente, c'est souvent une personne qui n'a pas de mots et qui s'exprime par la violence.
Ouais. Vous avez été chercher ça où ?
Dans ma tête.
Non, mais je voulais savoir. J'aime bien dans la tête de Linda
J'étais
Saya.
J'étais inspirée.
Linda Saya, avocat. Merci, maître. À bientôt.
De rien.
Au plaisir de vous retrouver vite
plaisir,
ici.
Ouais.
Absolument. Pierre-Henri, président de France Fraternité, monsieur le président, à très bientôt, ici même.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. À la réalisation,
avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé. À la réalisation, c'était Yanis. À demain, avec autant de plaisir également. On ne lâche rien. Portez-vous bien dans une poignée de minutes. C'est, Bilal Nedman avec Time Sport.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.